Le téléphone sonne toujours trois fois. En direct du téléphone de Sébastien Crozier.
Les arguments avancés à l'occasion du débat sur la neutralité du net ne sont-ils pas l'expression de différents groupes de pression économiques dont l'objectif n'est que la maximisation du rendement sur capital investi de leurs actionnaires? L'Internet connaît depuis 15 ans un développement spectaculaire. Il est la continuité de la société du numérique qui s'est ouverte dans les années 1930 avec la très célèbre machine de Turing. Comme lors du développement de toute nouvelle technologie, il a toujours existé des phases économiques favorables à certains types d'acteurs. D'abord, les fournisseurs de matériel ou d'infrastructures, puis les fournisseurs de services, et enfin les fournisseurs de contenu. Un changement de technologie peut aussi déstabiliser certains acteurs historiques. La globalisation et la constitution de groupes économiques d'importance a peu à peu gommé les frontières entre les différents types d'acteurs. Le débat sur la neutralité du net masque en réalité un affrontement entre différents types d'acteurs dont la première préoccupation reste la rentabilité sur capital investi. Entre un opérateur dont l'investissement dans les réseaux ne peut être amorti qu'en plusieurs années et le développement d'un site web dont le retour sur un réinvestissement peut être rapide, il y a là une distorsion d'importance. La capitalisation d'un Google ou d'un Facebook est très largement supérieur à celui d'un opérateur téléphonique, alors que les capitaux immobilisés sont largement moins importants. Si les opérateurs ont pu offrir grâce à la DSL un débit important aux consommateurs à un coût raisonnable, c'est parce que cette technologie réutilise les fils de cuivre installés il y a 30 ou 40 ans. Ce n'est pas le cas pour la fibre. La téléphonie mobile, quant à elle, est confrontée à un autre problème. Celui des ressources rares que sont les fréquences hertziennes qui, de par les lois physiques, ne permettent pas sur une zone géographique donnée de dépasser un certain débit pour un nombre limité de clients, contrairement à l'Internet fixe. Ces éléments semblent avoir échappé à nombre de débatteurs. La question n'est pas de savoir si la diffusion d'un contenu ou d'un service doit se faire de manière égale pour tous dans les zones à forte densité, mais d'organiser le développement d'Internet à haut débit accessible à tous, de façon égale, et en particulier dans les zones rurales. C'est pour ça qu'au-delà des conditions d'accès au contenu, il s'agit de poser la question de la contribution économique des différents acteurs à l'écosystème de l'Internet. Combien d'acteurs ont-ils souhaité s'installer à l'étranger pour éviter de payer la TVA ou l'impôt sur les sociétés? À quand une contribution au service universel des sites web financé par la publicité qui représente aujourd'hui 25% du chiffre d'affaires de l'accès en France et que seuls les opérateurs payent? Combien de temps devra-t-on accepter l'évasion fiscale qui permet à de nombreux acteurs de l'Internet de ne pas contribuer à son développement?